Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monjon. Et cette semaine, après une petite pause avec des interviews que nous avions pu faire lors de la Geek Touch hein, de Lyon, que j'ai pu rediffuser les derniers épisodes, vous avez pu entendre les studios indépendants qui étaient présents lors du salon en même temps que nous et que j'ai pu interviewer, présenter leurs projets, présenter leur parcours et avec tous les différents projets et tout. J'espère que ça vous a plu. Là, je rattaque un peu avec cette semaine sur l'aspect news. Donc, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas couvert la news. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualités et beaucoup de choses. Mais pas tant que ça non plus, parce que finalement, toutes les news se ressemblent un petit peu. Vous allez voir cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, mais rien de bien. Il n'y a pas de grosse annonce, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu avant l'été et c'est un peu la fin de saison. Donc, il y aura sûrement beaucoup plus de choses. Plus en septembre, je pense, en termes de news hyper importantes. Mais voilà, on parle bien sûr de bonnes pratiques avec la possibilité de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez. Hein, donc, vous pouvez mettre voilà, 5 étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais n'hésitez pas à nous noter. Ça nous fait remonter dans les classements. Et puis, on a vu un petit pic d'écoute ces derniers temps, donc je suis plutôt content. Donc la communauté continue de grandir et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas aussi à nous mettre des commentaires ou nous envoyer des messages et tout ça. Voilà, je regarderai ça avec attention et sans plus tarder. Du coup, attaquons la première news. Donc la première news, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Je préfère balancer les trucs négatifs dès le début, comme ça on en parle tout de suite. C'est les licenciements qui continuent dans l'industrie. Donc on a beaucoup 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 d'entreprises qui continuent de licencier, même une société qui a complètement fermé. Enfin, je pense que ça c'est dans toutes les annonces qu'il y a eu récemment, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de sociétés qui ont vraiment souffert de ces derniers mois, dernière année, avec la pandémie, même post-pandémie et avec tout ce qui se passe et tout, en termes de conjonction par rapport à la conjoncture économique, c'est quand même compliqué. Il y a des sociétés comme même Ubisoft hein, qui licencie une soixantaine de personnes, Deviation Studios, Playon, Bless Yourself Games qui avait fait Crypt of the Necrodancer, voilà, qui sépare pratiquement de la moitié de leur staff, Firaxis, XCOM, Marvel Midnight Sun, etc. Aussi pareil, qui vont licencier du monde, Vanpool qui était un studio support, qui pour Nintendo, qui avait notamment travaillé sur le jeu Kirby, qui ferme complètement. Relic Entertainment, ils avaient fait Company of Heroes, CD Projekt, hein, on connaissait pour The Witcher, etc. Eux, ils ferment complètement la division Gwent. Donc voilà. Donc c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Beaucoup de licenciements, beaucoup de personnes qui vont sûrement se retrouver au chômage à moins qu'ils soient reclassés dans d'autres services ou dans d'autres studios. Mais voilà, c'est toujours quelque chose d'assez. Assez douloureux, je pense, pour les copains qui travaillent dans l'industrie. Et par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'ouvrent aussi. Donc, j'ai vu la création récemment de beaucoup de sociétés. Donc, il y a une sorte de souvent des ces anciens de différents projets d'entreprises qui montent des petits studios. Donc, là, il y a des anciens CD Projekt, j'ai vu qui lancent Blank. Il y a d'autres studios aussi que j'ai vu passer des noms et tout. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Donc, même s'il y a des licenciements sur des studios un peu plus anciens, il y a toujours des nouvelles créations, des nouvelles entreprises qui se créent et qui seront prêts sûrement à recruter là tout de suite ou dans quelques temps. Et voilà, c'est du coup cette news un peu, je veux dire catastrophique, finalement un peu plus mitigée, un peu plus temporaire, voilà, un peu plus nuancée avec ces créations de studios qui vont peut-être pouvoir accueillir aussi de nouveaux candidats et de relancer un peu la machine des studios de développement de jeux. News suivante. Donc là, c'est une news que j'ai vue passer sur la partie. En fait, c'est une conférence qui s'appelle le Reboot Develop Blue qui se passe en Croatie et c'est sur le site de Game Industry. En gros, ils décrivent ici, il y a eu un talk durant cet event, le Reboot Developer Blue en Croatie de Ramil Ismail, qui est en gros un consultant, un développeur indépendant et le cofondateur de VLambeur. Vélambir, je sais jamais comment on le prononce cette société, Vélambir, et il a partagé les 10 meilleurs conseils pour survivre entre guillemets à l'Indiepocalypse. Alors l'Indiepocalypse, dur à dire. C'est un peu une théorie qui a émergé il y a quelques années de ça, déjà ça fait peut-être 3 ans, je dirais, 3-4 ans, j'entends parler de ce phénomène-là d'Indiepocalypse, en gros qu'il y aurait trop de jeux indés sur le marché qui sortent et que du coup c'est le marché complètement noyé, qu'il n'y a pas assez de place et que du coup tout le marché va s'écrouler parce qu'il y a trop d'offres et pas assez de demandes. Beaucoup se réfèrent un peu à ce qui s'est passé aussi à la fin des années 80 où il y a eu tellement de clones, de copies de jeux et que du coup le marché des jeux vidéo s'est complètement effondré et a vu d'ailleurs notamment la naissance de Nintendo qui a pu sortir du lot en proposant une sorte de curation de certificat de ses jeux avec sa console NES pour voilà pour remettre un peu les choses à carré et dire bon voilà les jeux qui sortent sur la NES c'est pas une énième copie de ce que vous avez pu voir sur voilà c'est pas un énième Pac-Man, un énième Space Invaders etc. c'est vraiment des jeux avec le label Nintendo, certifié Nintendo, et qui a la gage de qualité Nintendo. Donc, c'était vraiment une nouvelle approche de Nintendo, ce qui a fait sortir un peu le marché de sa morosité dans les années 80. Et donc, les gens pensent, il y a une théorie comme quoi l'Indiepocalypse se rapprochait un peu de ça, avec beaucoup de jeux qui sortent et qui sont pas forcément très intéressants, qui n'ont pas assez de demandes. Et donc, voilà. Et du coup, il y a tout un article sur comment survivre à cet Indiepocalypse. Bon, petit spoiler, hein, je vous raconte déjà la fin de l'article. Il conclut quand même en disant qu'il n'y a pas d'Indiepocalypse. Donc qu'il y a voilà, qu'on est encore loin de ça et que c'est pas du tout pour lui, enfin, selon lui, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'Indiepocalypse qui se profile à l'horizon. Mais par contre, ces conseils sont hyper intéressants pour vos créations de jeux, vos prods, si vous êtes en train de développer un jeu indépendant. Voilà, il y a 10 points essentiels quand même, c'est comprendre les risques, ne pas suivre le marché, tester son modèle économique, assumer l'échec, ne pas viser trop haut, construire sa marque, cultiver la sincérité, éviter l'évidence, échouer plus rapidement et être chanceux. Donc là, je vous l'ai traduit un peu parce que l'article est en anglais, mais la traduction, c'est à peu près ça. Comprendre les risques, c'est voilà, il faut minimiser les risques lorsqu'on débute, hein, de pas tout lâcher pour se lancer complètement sans filet. Donc, quand on démarre son premier prod, premier projet, vaut mieux peut-être garder aussi un petit boulot à côté et de faire des jeux très peu coûteux, pas partir sur des prods 3-4 ans où vous allez vous cramer, vous allez peut-être jamais sortir votre jeu, où vous allez. Mais voilà, mettre toute votre économie, c'est assez risqué, donc de ne pas le faire. Ne pas suivre le marché, éviter de copier quelque chose qui existe déjà. Essayer de créer quelque chose de vraiment complètement nouveau. Donc, les grandes entreprises, ouais, ce qu'ils disent, c'est que les grosses boîtes peuvent suivre le marché parce que ils ont pas mal de données, etc. Du coup, mais pour les indépendants, c'est quand même beaucoup plus facile de se démarquer plutôt que d'être des suiveurs pour les indépendants. Tester ce modèle économique. Je reviens juste un peu sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a quelques exemples, comme on voit surtout sur la DA et tout, des fois, Retour, qui était vraiment un jeu marquant parce qu'il y avait une DA hyper unique avec ce côté un peu noir et blanc, mais en 3D, qui avait vraiment fait sa particularité. Honnêtement, je sais même pas de quoi le jeu parle, mais la DA et tout ce que les gens ont dû retenir, c'est quand même important de voilà de pas suivre le marché, de se démarquer de cette manière au moins. Après, on peut se démarquer par d'autres manières que la DA, hein, le gameplay, etc. Mais voilà, il faut pas suivre le marché, c'est son deuxième conseil. Son troisième conseil, c'est de tester le modèle économique. Donc, les développeurs indépendants doivent tester leur concept en présentant à des éditeurs, des investisseurs. Et en gros, ces conseils qu'ils disent, c'est n'allez pas faire votre jeu pour votre éditeur préféré. Ne dites pas, bah, là, je vais faire mon jeu là pour que ce soit compatible pour Devolver ou pour Furry. Non, en fait, faites votre jeu et puis allez le présenter et surtout allez le présenter aux des éditeurs que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas forcément, déjà pour voir les premiers retours et que si, sur un malentendu, ils vous disent bah finalement je vous signe avec vous pour sortir votre jeu, bah pourquoi pas quoi, prenez le chèque et puis faites votre premier jeu et voilà. Mais n'allez pas avoir directement le publisher que vous visez parce que voilà, c'est toujours selon lui, hein, c'est pas forcément ma recommandation, mais que vous allez être déçu et peut-être arrêté si vous apercevez que le publisher que vous visiez n'est pas intéressé par votre jeu et du coup que vous vous retrouvez avec un jeu où vous n'y croyez plus trop et vous êtes un peu découragé aussi. Assumer l'échec, considérer que le jeu, votre premier jeu ne rapportera pas forcément des millions, voilà, ne pas avoir des estimations trop hautes, hein, ne pas viser trop haut, ça aussi, il y a un autre conseil. Il faut mieux faire des jeux adaptés à des petites équipes sans vouloir aller recruter 50 personnes pour faire votre premier jeu. Surtout si vous n'avez pas forcément les moyens, les budgets, vous n'allez vraiment pas y arriver à motiver, à fédérer beaucoup de gens et à travailler pendant des heures d'arrache-pied pour sortir un jeu. Ne visez pas trop haut, gardez un scope restreint avec une petite équipe. C'est beaucoup plus viable. Construire sa marque, développer sa marque, c'est important aussi. Donc, en tant que développeur, il faut que les gens vous reconnaissent. Donc, si vous êtes sur du free-to-play, sur du premium, sur un style particulier, ou voilà, si vous êtes un spécialiste du RTS ou de Tower Defense, ou d'autres types de jeux, ou de la qualité, ou même une sorte de, je sais pas, de vision, de stratégie de votre entreprise et de votre marque est quand même importante si vous voulez créer des jeux à petite échelle. Ça peut aussi créer votre identité, votre marque, que votre communauté de joueurs pourrait être intéressé de suivre et du coup d'acheter toutes les créations qui viennent par la suite s'ils ont aimé votre première création. Et là-dessus, je le rejoins un peu. Il y a des choses quand même qui sont intéressantes quand on y pense en tant que gamer ou joueur, voilà, consommateur de jeux. Il y a souvent des jeux qui sortent, je me pose même pas la question de savoir s'il est bien ou pas, je lis même pas les reviews, je fais rien, je vais juste acheter parce que c'est estampillé par une société que voilà que j'apprécie quoi. Donc bon, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais passé un temps c'était un peu ça, un jeu à Squaresoft ou à l'époque qui sortait avant l'infusion de Square Enix, je les prenais. Je me posais même pas la question. Je savais que ça allait forcément plaire. Blizzard, c'est pareil. Donc voilà, construire sa marque, c'est important. Cultiver la sincérité, un autre point, un autre conseil qu'il nous donne ici. Les jeux doivent refléter les expériences et la valeur personnelle des développeurs pour se démarquer des autres. La créativité, il faut que ce soit vraiment authentique. Voilà, vraiment, on parle d'authenticité, c'est de ne pas essayer de tordre la réalité, de tordre des choses juste pour rentrer dans des cases ou pour faire comme les autres, mais être authentique et sincère avec votre communauté, avec les joueurs. Éviter l'évidence, bon, les idées évidentes, elles sont à éviter. Il faut chercher des connexions plus profondes, des idées originales, plutôt sûres, des premières idées qui viennent à l'esprit. On va dire là, il enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est des choses qui sont parfois difficiles quand voilà, on commence à créer un jeu, de se dire bah, qu'est-ce qui est une évidence? Est-ce que je fais un FPS? Ben oui, je vais forcément mettre la caméra de cette façon, il y aura forcément un pistolet ici, mais peut-être que ce qui est moins évident, c'est de dire que le pistolet, à la place du pistolet, ça peut être un pistolet de peinture, quoi, comme dans Splatoon, et que même si c'est un FPS, ben, on peut créer une sorte de jeu multijoueur. Où à la place de se tuer, il faut peindre des zones et essayer de faire en sorte de voilà, on connaissait le principe de Splatoon, hein, je vous l'ai expliqué, mais voilà, de combat avec les couleurs. Donc ça peut être aussi quelque chose d'inspirant pour se dire, bah, voilà, il y a un genre qui existe beaucoup. Comment on peut tourner ça pour que ce soit plus intéressant que l'évidence principale? Ça rejoint un peu à des choses comme ne pas suivre le marché ou cultiver la sincérité, je trouve ici. Et le neuvième point, l'avant-dernier point, échouer plus rapidement. Donc, échouer rapidement, pour moi, c'est le fail faster. Donc, en gros, pour moi, là-dessus, j'adhère beaucoup à ce principe-là. C'est peut-être même le seul point, je pense, avec lequel je suis plus ou moins vraiment en accord avec ce qui est dit. Ce neuvième point, c'est il faut itérer rapidement, prototyper rapidement, livrer rapidement, tester et ne pas avoir peur de l'échec et de dire, bon, voilà, ben c'est pas grave, on n'a pas réussi, on a appris, et puis on essaye, on refait, on relance un projet, on reteste, etc. Et ça, c'est super important. Et là, l'expérience personnelle du jeu sur lequel on travaille avec Robin Shapiro, c'est vraiment ce principe-là qu'on a appliqué. C'est qu'on a fait plein de tests, on a fait plein de jeux, on est parti dans tous les sens, on a essayé des gameplays complètement innovants. avant, des choses, voilà, justement, ne pas suivre le marché, on l'a très bien fait, on essaie de faire des choses ou ne pas suivre le marché, mais c'était des échecs, des fours incroyables, on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout parce que c'était des choses qu'on n'arrivait pas à gérer. Il y avait peut-être qu'on était mauvais, hein, mais je pense que dans un sens, voilà, on n'était pas forcément très bon dans notre démarche. Et tout ça nous a vraiment amené à prendre des décisions et à vraiment construire une philosophie de projet sur lequel on a créé quelques valeurs ou règles de création qui nous permettent justement d'aller assez vite, d'échouer plus rapidement. Si ça doit foirer, bah ça foire et c'est pas grave, on retestera avec un autre jeu et on apprend à chaque échec et on regarde pourquoi ça n'a pas marché, quels ont été les points bloquants. Donc il y avait un jeu typiquement, on a voulu mélanger plein de genres, une sorte de Slay the Spire avec un côté un peu RPG, tour par tour et tout, au mode un peu aventure en voxel, enfin c'était un échec total, enfin on n'arrivait pas à rendre le truc intéressant. C'était devenu un truc hyper gigantesque avec des levels à créer, une histoire à écrire, des systèmes de cartes. Enfin, on a fait un truc vraiment trop gros, le scope était trop démesuré, donc on était complètement pas dans le minimiser le risque. Là, on avait pris trop de risques et c'était parti pour au moins une prod de 2-3 ans. Je parle même pas du premier projet, un tactical RPG où là, avec une petite équipe et tout, il y a plein de gens qui nous ont suivis et c'était génial, c'était une super expérience. Le projet est vraiment dingue. Il y a encore quelques visuels sur scarstactics.com, hein, vous pouvez aller voir scarstactics.com, mais c'était complètement délirant de se lancer là-dessus sur un des premiers projets où on avait un scope trop élevé, trop gros. J'avais même fait des démarches auprès des éditeurs, mais bon, personne n'a voulu suivre parce que on était sur un entre deux qui n'attirait pas forcément les gros éditeurs et ça n'attirait pas non plus les petits éditeurs parce qu'on était trop cher pour eux. Donc c'était voilà, c'était aussi un échec qui nous a appris beaucoup de choses et qui nous a amené à faire les nouveaux projets sur lesquels on s'établit. Et sûrement qu'on aura d'autres échecs et d'autres apprentissages qui vont arriver. Mais ce neuvième point est vraiment très important de ce que nous a dit Rami et Ismaël, c'est d'échouer le plus rapidement possible. Et le dernier point là-dessus, bon, je suis pas forcément très d'accord, mais c'est être chanceux. Oui, la chance fait partie, à une part, mais bon, je pense que la chance peut être cultivée. Oui, ça existe, hein, d'être chanceux ou pas chanceux. Mais je pense que se dire, bon, voilà, j'ai pas de chance, j'ai pas réussi, c'est pas ma faute, c'est pas forcément la bonne attitude. Donc, il vaut mieux dire, j'ai le contrôle, je vais tout faire pour que ça fonctionne et se retrousser les manches et travailler. Le boulot, ça paye. Il faut taffer. Puis voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. Faut continuer, trouver des moyens. Et je pense qu'avec la passion et le travail là-dessus, on peut toujours trouver des choses. Peut-être que vous finirez pas multimillionnaire, mais au moins vous pourrez sortir vos jeux et être content de ce que vous avez réalisé. C'est peut-être le plus important ici, étant tous ces conseils. Donc, je mettrai l'article en anglais, hein, sur le site de Game Industry. Vous pouvez aller jeter un œil et voir tous ces éléments que passer en détail sur l'article pour vous inspirer ou de redonner un peu de motivation aussi sur vos projets. News suivante, c'est l'Antarctique Sud, super intéressant, du directeur artistique de Roommate, qui est un directeur artistique 3D, hein. Maxime Makovsk, je crois, si je prononce bien, qui me détaille un peu le processus de création d'un jeu vidéo, en fait, toutes les pipelines, les milestones, etc. Roommate, c'est une société d'outsourcing, donc qui travaille pour d'autres sociétés, donc j'ai déjà travaillé avec eux, ils sont super sérieux, ils sont super voilà, impliqués aussi. Et là, des conseils de justement de Maxime sur toute la pipeline, c'est aussi sur le site de Game Industry d'ailleurs, hein, qui nous raconte un peu comment se passe le découpage d'un projet, qu'est-ce qui se passe dans la phase de pré-production, dans la phase de production, dans la phase de post-production aussi, et toutes les étapes. Il va au-delà du côté art, il parle un peu aussi bah, tous les autres différents corps de métier, quels sont typiquement les différents acteurs qui rentrent en compte sur les différentes phases du projet, comment voilà quels outils sont utilisés. Il parle de Blender, ZBrush, tout l'aspect. Il est vraiment un peu axé quand même un petit peu sur la partie artistique où il parle beaucoup plus d'animation, de rigging, des outils comme Substance. Il apporte aussi l'usage Unreal Engine et les avantages que procurent tous ces outils, dont la façon un peu moderne de créer des jeux vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir un peu justement cet article sur comment vous posez toujours la question de quelles sont les différentes phases pour créer un jeu vidéo, quels sont les milestones, quel découpage et quels sont les éléments à livrer pour chaque milestone. C'est des choses qui peuvent peut-être, cet article pourra peut-être vous aider, vous aiguiller un peu à trouver des réponses dans votre façon de produire le jeu. Donc pareil, je mettrai l'article en note de l'émission. Et sinon, vu qu'on parle art, je suis tombé sur un petit article qui détaille un peu, qui recense un petit peu tous les meilleurs outils pour faire de l'art pour vos jeux gratuitement. Donc, c'est sur gamedeveloper.com. Évidemment, il y a les plus connus, les plus classiques, on va dire Blender, GIMP, qui sont là, Blender pour la 3D et GIMP pour la 2D, qui sont les outils gratuits open source que vous pouvez télécharger et utiliser pour vos créations. Mais il y a tout un tas d'autres outils qui ne sont pas forcément open source, hein, contrairement à GIMP ou à Blender. Mais par exemple, on a Sketchbook de Autodesk qui est gratuit pour sa version basique. J'ai déjà utilisé il y a quelques temps sur, je crois, sur tablette et ça marche. Marchait plutôt bien, hein. Enfin, les usages de base sont plutôt bien faits. Je crois que c'est toujours une version toujours gratuite, hein, sur iOS aussi, si vous voulez le prendre pour votre iPad. Krita, qui est lui open source pour le coup, qui est un équivalent un peu de Photoshop pour PC, Linux, surtout. Je crois qu'il y a une version Mac aussi, mais je crois qu'il marche pas super bien de mémoire. Là, pour l'avoir testé, c'était pas les performances, c'était pas trop là, mais c'est un outil assez complet pour faire de digital painting, etc. C'est vraiment très adapté. Il y a Piscale aussi, qui est un logiciel open source pour permettre de faire du pixel art. Et l'avantage, c'est qu'il y a même une version web. Vous pouvez, avec un navigateur web, faire du pixel art. C'est plutôt bien fait. Et je l'ai déjà testé. L'outil est très minimalistique. C'est pas du tout comme iSprite, etc. On n'y retrouve pas toutes les fonctionnalités. Mais pour faire du pixel art assez basique, c'est plutôt bien. Voilà, ça c'était pour les outils plus côté 2D. Pour 3D, ben, je vous ai parlé de Blender tout à l'heure. Il y a Tinkercad pour faire tout ce qui est un peu objet 3D, simple. L'ingénierie aussi, par exemple, si vous voulez créer des je pense qu'avec ça vous pouvez l'utiliser pour voilà, pour créer des, comment dire ça, des objets 3D pour les imprimantes aussi, je pense que ça pourrait marcher. Voilà, c'est Magica Voxel aussi pour la 3D, en mode plus Voxel. SculptGL, c'est un peu en sorte, j'imagine, de ZBrush-like. Figuro, après, je les connais pas tous, mais voilà, pas mal d'outils. Je mettrai la liste, enfin, je mettrai surtout le lien de l'article pour que vous puissiez aller voir un peu tous ces outils. Si vous cherchez des outils gratuits, vous avez besoin d'assets graphiques et que vous voulez les créer vous-même, ça peut peut-être être aussi des bons outils pour vous aider à démarrer sans trop de charges, sans trop de frais, vu que tous ces outils sont gratuits et disponibles sur le net. News suivante, c'est l'annonce d'Unity, hein, qui était fait il y a quelques temps déjà, mais que j'avais pas couvert, c'est la nouvelle version LTS d'Unity, la version 2022 qui arrive en juin. Donc là, normalement, quand vous écoutez le podcast, il devrait ce mois-ci arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté cette nouvelle version d'LTS d'Unity? Donc, on a le Data Oriented Technology Stack qui est production ready. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Data Oriented Technology Stack? C'est le fameux DOTS que, enfin, on a toujours entendu parler, mais en tout cas, j'en ai toujours entendu parler comme sous l'acronyme DOTS, mais jamais le terme exact. Mais donc, ça y est, ils permettent maintenant d'être utilisé sur des prods, la prod classée sur vos prochains projets et tout. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui l'utilisaient déjà pour leur jeu, mais là Unity est assez confiant pour dire, bah voilà, vous pouvez l'utiliser, ça arrive avec la LTS, c'est inclus dedans, vous pouvez vous en servir pour vos prochains titres sur lesquels vous travaillez actuellement. Il y a un nouveau système d'effet d'eau, il y a plein d'autres annonces un peu, là je mettrai pareil, hein. Il y a une vidéo sur qui a été publiée à la GDC là, de cette année, où Unity présente un peu sa roadmap pour le moteur. Je vous remettrai le lien en note de l'émission pour que vous puissiez voir un peu les détails. Mais oui, il y a un nouveau système d'eau un peu plus réaliste. Il y a le code est crossfade sur le LOD. Donc, en fait, il y a un système de transition un peu plus smooth entre les différentes échelles de LOD. Donc, il montre dans l'exemple que le vase, par exemple, il y a beaucoup de polygones et d'un coup, il y a beaucoup moins de polygones. Et des fois, on a l'effet dans certains jeux où, qu'on recule un peu la caméra, ça casse un peu cet effet où on voit. Ça fait comme un saut, quoi. C'est pas hyper smooth, c'est pas hyper... La transition n'est pas très douce en tout cas. Et là, justement, ils ont rajouté un truc qui permet justement de faire ce LOD crossfade qui rend la transition vraiment douce et comme si, voilà, il n'y avait aucune différence et entre les deux. Enfin, à l'œil, au regard, la transition semble beaucoup plus naturelle que sans le crossfade. Quelque chose aussi qui s'appelle le decal layers, donc ça permet des décals d'afficher des éléments sur le sol. Et ces decal layers permettent de n'affecter que certains objets et de ne pas prendre en compte tous les objets. Donc c'est un peu technique, j'ai pas trop testé. J'avais déjà testé les decals sur Unreal Engine, mais jamais trop sur Unity. Mais ça permet d'afficher des éléments sur certains objets 3D, des terrains, ou voilà, etc. Et des fois, on a le problème sur Unity, je me rappelle, qu'on avait essayé de faire un peu de décal, c'était que quand un personnage passait sur la zone où il y a le décal, le décal, c'est un peu comme comme un sticker, comme quelque chose, une image superposée sur un objet, sur une texture. Du coup, si un personnage passer sur un élément de terrain où il y avait ce décal, le décal s'affichait au-dessus du personnage après, où il y avait un système un peu bizarre, bizarroïde, mais du coup, ce système de layers, ce décal n'affecte pas et peut être plus facilement managé dans Unity. Voilà, comme je disais, vous pouvez regarder toutes les annonces faites sur le lien que je mettrai en note de l'émission. Dernière chose, bon là c'est vraiment un peu en mode nostalgique, je suis tombé dessus, je me suis dit bon ça date un peu, c'est un talk de la GDC de 2017 qui a été republié là sur le site de gamedeveloper.com. C'est le post-mortem de John Coney, qui est un ancien développeur Flash. Enfin, je dis ancien parce que je pense qu'il est toujours développeur, mais je pense qu'il fait plus trop de Flash. Et qui refait un petit post-mortem sur tous les jeux Flash, comment ça a commencé. Flash était beaucoup utilisé pour les animations. Et comment les développeurs de jeux, les développeurs indés sont appropriés Flash, et comment ils ont été utilisés, comment les gens ont commencé à gagner de l'argent en faisant des jeux avec Flash, etc. Qui a été vraiment le début de la scène un peu indépendante sur le web, où beaucoup de gens, même maintenant, sont issus de cette industrie naissante qui a été les jeux Flash à l'époque, qui ont basculé sur d'autres types de jeux, maintenant des jeux mobiles, etc. Et donc c'est intéressant de voir voilà ce qui s'est passé. Et des fois, je débat avec certaines personnes qui misent tout sur un outil, ou par exemple sur Unity, etc. Pour dire ouais, moi j'ai connu Flash, j'ai tout misé sur Flash à l'époque, et bon l'outil est mort, maintenant tu fais quoi? Ouais, tu peux transposer certaines connaissances sur certains outils, mais il faut réapprendre encore un outil, que ce soit Unity, Unreal Engine, ou Mega Maker, ou Godot, n'importe quoi, il faut réapprendre un outil, un écosystème, etc. Et si demain, ça s'arrête, il faut que tu recommences à chaque fois. Donc ça a quand même été quelque chose d'assez traumatisant, je pense que pour certains développeurs, ça l'a été aussi. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a quand même pas mal affecté de la fin de Flash et se dire, bon, on va tous savoir Flash. Même, j'ai été mis à utiliser le framework Flex pour faire des applis et tout, avec justement de l'action script à l'époque. Et tout d'un coup, tout s'arrête et c'était un peu catastrophe. Et donc, c'est intéressant de voir ce post-mortem de John Coney. Donc, allez faire un petit tour là sur la vidéo. Voilà, et puis c'est tout pour les news de cette semaine. Finalement, j'ai fait plus long que ce que j'avais prévu. Je pensais faire un petit épisode cette semaine, mais voilà. Donc n'hésitez pas à suivre le podcast sur le compte Twitter, coulisses du jeu, coulisses au pluriel. Comme d'habitude, YouTube pareil, youtube.com/coulisses du jeu, coulisses au pluriel. Il y a plein d'autres trucs, enfin, vous pouvez les retrouver partout, mais je commence à poster sur LinkedIn aussi maintenant. Communiquer un peu sur ce que sur le podcast, le fait que je fasse un podcast, et franchement ça a bien répondu, je suis hyper content, merci pour le soutien, merci pour tous les gens qui écoutent, qui ont liké, qui ont repartagé. J'ai fait une petite pause là, sur toutes les autres créations de contenu, parce que je suis vraiment surchargé de travail avec la création du studio aussi sur lequel je suis en ce moment avec Robin. Donc c'est du boulot partout, donc j'espère que j'aurai un peu plus de temps de faire des streams ou des choses comme ça, reprendre un peu ça me plaisait aussi, mais il faut que je trouve des choses qui sont plus adaptées. Le podcast c'est très adapté et je suis super content. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!